Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h40, juste avant le petit déjeuner de l'actu, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel, vos appels 0826-300-300. Comme tous les matins, on fait une revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors ce sont les vaccins contre le Covid qui sont la une, notamment du Figaro qui titre « Sur la recherche française mise en échec ».
Ben oui, l'abandon de Pasteur, les retards de Sanofi, autant de signes qui témoignent de la dégradation du système français depuis des années. Parmi les maux dont souffrirait notre pays et ses scientifiques, on trouve le manque de financement, les lourdeurs de la bureaucratie, mais aussi la guerre des tutelles et l'aversion au risque. Au pays de Pasteur, l'absence pour l'heure de vaccins estampillés France peut étonner, mais le Figaro note tout de même des motifs d'espoir pour notre recherche, avec notamment des budgets enfin en hausse pour l'année prochaine, tandis que les investissements commencent à mieux soutenir les start-up les plus prometteuses dans le domaine. Mmh. En tout cas, ce sujet, il continue d'interroger, d'inquiéter même, vaccin, où en est la France? C'est la question qui s'affiche à la une de la Dépêche du Midi. Malgré les propos rassurants d'Emmanuel Macron hier soir, la pénurie guette face aux difficultés de production et de livraison. Même si, nuance la Dépêche, l'arrivée de nouveaux vaccins est un motif d'espoir.
Oui, et puis il y a toujours dans l'air, si je puis dire, le variant anglais. Et le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse justement à ça.
Oui, avec ce titre, comment savoir si on l'a? Bah oui, parce que beaucoup de patients souhaitent être informés, mais seuls certains types de tests permettent de dire si l'on est infecté par la souche mutante. Oui. Et tous les laboratoires ne proposent pas forcément ces solutions. Le Parisien qui indique néanmoins qu'un kit pour déceler tout de suite le variant anglais devrait arriver en France d'ici 2 à 3 semaines. Le problème, selon certains spécialistes, c'est précisément le temps qu'il faut aux variants pour prendre le dessus sur la souche classique.
Oui, et puis il y a, la fin des voies sur berge à Bordeaux, c'est dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, du pont Saint-Jean au pont Veil, ces voies sur berge vont être transformées à partir de cet été. C'est imminent, des travaux qui vont coûter quelques 20 millions d'euros et durer 2 à 3 ans. Dossier complet à retrouver aujourd'hui donc dans sud-ouest.
Et il va y avoir les pour et les contre. Attention, comme à Paris, comme dans d'autres villes où ça s'est déjà un peu fait.
Effectivement, en tout cas, on termine les pour et les contre, en tout cas les tensions dans le sport avec la crise à l'OM, à la une notamment de l'Équipe avec ce titre « Sauf qui peut », 3 jours après cette violente intrusion, on en avait parlé, des supporters dans le centre d'entraînement marseillais. L'entraîneur André Villas-Boas a annoncé sa démission à effet immédiat. Le club semble en perdition, écrit l'Équipe. Des mots encore plus forts du côté de la Provence avec cette fois-ci ce titre « Apocalypse OM ». Le président héros notamment est ciblé par des supporters et il se trouve plus que jamais esselé, indique aujourd'hui la Provence.
Oh bah oui, et puis vous avez vu la déclaration de Tapie. Abruti, il a dit. Il n'a pas mâché ses mots. En tout cas, c'est vrai.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle justement de ces critiques de plus en plus fortes à son égard, et pourtant il est toujours là.
Absolument. Il est toujours là, et c'est vrai qu'il y a une déconnexion entre le public, les supporters, et puis les dirigeants marseillais aujourd'hui.
McCourt, donc pour l'instant,
vous entendez des supporters qui disaient mais McCourt, on l'a pas vu depuis 2 ans au stade également. C'est vrai que en plus il joue ce soir là, l'OM.
Contre Lens.
Contre Lens. Alors c'est pas à Marseille, mais s'ils reviennent avec une nouvelle défaite, je pense que ça n'arrangera pas les choses. D'autant que l'équipe de Lens marche plutôt bien ce moment. Merci à vous, Benjamin Glaise. Et je rappelle, puisqu'on parle de sport, pour les amateurs, mais il ne viendra pas nous parler que de sport, que Serge Chimon sera avec nous. C'est le vice-président d'AFEDE, parce qu'il nous parlera du tournoi Destination. On l'évoquera aussi, bien sûr, parce que ça va démarrer. Mais il a écrit quelques perles autour des nouveaux mots qui sont apparus et des expressions autour du Covid qui sont absolument hilarantes. Ça fait beaucoup de bien, croyez-moi, même si évidemment la situation est dramatique, de lire ça en ce moment. Allez, on poursuit.
Et on poursuit ce matin avec le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel ce matin. Oui. Et Nicolas Robière d'abord.
Ah oui, Nicolas Robière aussi qui est avec nous, puisqu'on a enchaîné avec vous, Benjamin. Nicolas Robière, donc de la République des Pyrénées. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
On évoquait beaucoup ce matin et puis hier les conséquences de la tempête Justine, donc avec les pluies diluviennes. Évidemment, dans la région aussi, vous avez été très touché, très concerné. J'imagine que vous y revenez encore ce matin.
Mais on y revient parce qu'en fait, c'était plus d'ailleurs moins la tempête que les pluies qui ont fait s'effondrer un bout de montagne à La Rance, en vallée d'Ossau. Mmh. Ça s'est passé lundi soir, en fait, après 18h. Il y a toute une lentille de terre qui est partie de 1200 mètres d'altitude et qui est tombée sur la route de la Rance, qui l'a coupé une bonne partie de la journée hier et qui a entraîné de gros travaux. On a le témoignage là de Annie Sanchette qui, il était 18h, 18h30, la nuit était tombée, elle a entendu un grand bruit dans la montagne, elle ne savait pas ce que c'était.
Ouais.
Et ensuite, elle s'est rendue compte de ce glissement de terrain, un glissement de terrain qui avait fait la veille. C'était une tour du 11e siècle à Saône-Navaille également, qui est partie dans la pente, elle aussi, suite aux pluies. Donc en fait, c'est moins la tempête et le vent en béant que la pluie qui ont fait des dégâts à divers moments, à divers endroits.
Oui, c'est vrai. Ce qui est toujours incroyable, c'est qu'on se dit, bon, ben, on met en place un tas d'aménagements, et donc ça ne se reproduira pas, et ça continue de se reproduire. Alors c'est vrai que c'est beaucoup tombé, que les sols sont très humides, quoi, en ce moment.
Oui, il a beaucoup plu en Béarn. Alors, ça se voit surtout, d'ailleurs, en aval du bassin de la Dour. Vous avez vu dans les Landes, ils avaient eu énormément d'inondations. En Béarn, on a énormément l'habitude de la pluie, de beaucoup de pluie. En général, les inondations, c'est plutôt au printemps quand la neige fond, puisque d'abord la pluie, c'est d'abord de la neige dans les montagnes. Et là, pour le coup, c'est vraiment des sols détrempés qui partent carrément dans la pente. Mmh. C'est assez impressionnant. En tout cas, c'est un phénomène qui a l'air de se reproduire de plus en plus. L'hiver, des routes coupées comme ça, suite à des glissements de terrain, notamment en montagne.
Allez, merci beaucoup, Nicolas Rebière, donc directeur de la publication de la République des Pyrénées. Il y a également un article assez intéressant sur un Leclerc qui a voulu un centre Leclerc qui a voulu ouvrir son espace culturel. Boum, il s'est fait rattraper par la patrouille, si je puis dire, par le préfet. Merci Nicolas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et je le disais il y a quelques instants, à 8h45, le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel, et on va revenir sur cette vaccination et sur ce vaccin russe surtout.
Ben oui, c'est assez cocasse. Hein. Sur la vaccination en général, on y sera tout à l'heure avec quand même le représentant des syndicats pharmaceutiques de France, puisque l'AstraZeneca devrait être en pharmacie dans les jours qui viennent, là, assez rapidement. Mais alors attention, parler plus de 65 ans. Et donc, on fait des affaires avec les Russes, que vous disiez tout à l'heure, mon cher Eric Revel. Alexis Poulain, pendant un bout de temps, on a dit non, il n'est pas question d'aller vers les Russes et d'aller vers les Chinois pour les vaccins. On fait confiance à nos big pharma beaucoup plus classiques. Et là, on est au pied du mur, quoi, en quelque sorte, non ?
Évidemment, il faut savoir que l'institut qui a développé le vaccin Sputnik V en Russie est l'équivalent de l'institut Pasteur. Donc, c'est des gens extrêmement réputés hein, qui ont travaillé sur d'autres vaccins qui maintenant sont partout dans le monde. Cette vision politique du monde qui voudrait faire des Russes les ennemis permanents comme si on était encore en guerre froide, elle est stupide, surtout en cas de pandémie. Ils ont une compétence avérée. D'ailleurs, ce vaccin a été, la dernière étude du Lancet le prouve, hein, une efficacité effectivement de 90% ou plus, je crois, 91%. Voilà, 92, merci Eric. Donc, quel était le fond, en fait, de dire dans cette crise sanitaire, de mettre de la géopolitique inutile, là où on a besoin simplement de vaccins efficaces. Donc il est heureux que Emmanuel Macron ait enfin pris la mesure hein, des actions à prendre avec la production de vaccins. Mais encore une fois, les big pharma ont une attitude honteuse dans cette crise.
Pourquoi ?
Bah parce qu'elles font du profit. Alors c'est leur boulot.
Ah oui,
vous
on
allez
entendait
dire.
Hier Pfizer 15 milliards.
15
c'est
milliards,
ça.
15 milliards pour cette année.
Ah bah non,
moi je me rappelle. Les annonces d'Emmanuel Macron qui disaient que ces vaccins, s'ils arrivaient, devaient être un bien commun de l'humanité. Si c'était le cas, eh bien, il faudrait qu'on soit en licence libre et que justement la production ait pu commencer rapidement. On n'aurait pas eu. Si la production pouvait commencer rapidement, tout simplement, en disant voilà, maintenant on va vous le donner, on se payera après, on verra comment on gère les affaires de
comme
après.
C'est mignon.
L'idée. Non, mais. Ben c'est pas mignon,
franchement, c'est vraiment.
Vous savez quoi? Non, mais à un moment.
Le monde n'est pas régi ni par la philanthropie, ni par l'amour, mais par les rapports de force.
Laissons finir.
On parle d'une crise majeure, une pandémie majeure, et on a des gens qui sont là, et qui d'ailleurs le revendiquent, pour faire de l'argent. Eh bien, si les politiques avaient un peu plus de coffres, je crois qu'ils pourraient taper sérieusement du poing sur la table. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé entre l'Europe et AstraZeneca.
Elisabeth et Eric Revel. là-dessus.
On a vraiment des politiques qui sont très faibles comparées aux intérêts financiers.
On peut aussi décider, si vous voulez, de faire une grande union soviétique à l'échelle mondiale.
Mais ça n'a rien
mondiale.
À voir avec ça, Elisabeth.
Donc, si ça a à voir, c'est-à-dire que vous vous insurgez parce que des entreprises privées veulent faire du profit.
Non.
La question est de savoir, si vous voulez, la question est de savoir si on aurait trouvé ces vaccins s'il n'y avait pas effectivement cette recherche du profit. Alors on peut trouver que ça n'est pas moral, que ce n'est pas bien, mais à ma connaissance, ce n'est pas la morale qui régit ni les relations internationales ni le commerce mondial.
Il n'y a rien de moral là-dedans.
Encore une fois, si les États... si vous voulez, était si efficace, il suffirait de mettre de l'argent public dans la recherche des vaccins et ça marcherait. À l'évidence, l'exemple
juste
de la France montre que ça ne marche pas.
Oui. Une précision.
Ensuite, Eric,
Ces vaccins existent parce qu'ils ont été financés par de l'argent public.
Les labos ont récupéré
de l'argent public. Et un exemple pour vous dire pourquoi parfois l'entreprise privée marche sur la tête. Sanofi qui a fermé une usine qu'elle a construite en 2012, qu'elle ferme en 2017, usine qui a coûté 107 millions d'euros, c'est dans le sud de la France, elle n'a jamais servi. C'était un centre de recherche, Sanofi a fermé ce bâtiment. Pourquoi ? Changement de stratégie. Alors, me dites pas derrière que parfois le privé fait mieux. Non, là, on est typiquement dans un truc, mais l'État
si,
ferait ça,
le privé fait mieux. Très souvent,
non, mais l'État français
très souvent,
fait un truc
le privé
pareil,
fait mieux.
Mais laissez tomber. Là, Sanofi, qui dépense 107 millions pour construire un bâtiment qu'il n'utilise pas et qu'il détruit 5 ans après, c'est du délire. C'est ça, les Big Pharma.
D'accord, bon, et donc vous voulez l'Union soviétique, c'est-à-dire les États qui financent tout.
Je veux de temps en temps du bon sens.
Éric Revel, oui.
Alors, juste une petite phrase, je ne sais pas si vous l'aimez bien, Comte Sponville qui dit « L'économie n'est ni morale ni immorale, elle est amorale ».
Ça, c'est réglé.
Autre chose, vous savez qu'il existe... Je rejoins assez le point de vue d'Alexis, c'est-à-dire que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est réalisable en plus. J'avais lancé un appel en disant « Mais... bon Dieu, les laboratoires qui, dans le monde entier, ne produisent pas de vaccins, qu'ils se mettent à produire dans leurs unités de production les vaccins existants, compris, pourquoi pas, le russe. Bon. Mais vous savez qu'il existe auprès de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, une possibilité. Parce que le problème des laboratoires, c'est qu'ils ont des brevets déposés, qui sont valables pendant 20 ou 25 ans, qui leur apportent effectivement beaucoup d'argent. Mais auprès de l'OMC, les États peuvent réclamer ce qu'on appelle une licence obligatoire, c'est-à-dire, c'est l'OMC qui décide, à la demande des États, c'est-à-dire la possibilité pour un État d'utiliser un brevet sur une durée déterminée, y compris ceux des vaccins, si l'OMC, à la demande d'un État, l'approuve. Eh bien ça, les États pourraient le faire. Les États
Je peux faire une objection.
Laissez terminer, vous allez faire objection, votre honneur.
Auprès de l'Organisation mondiale du commerce, qui ne sert pas à grand-chose et dans laquelle, d'ailleurs, la Chine est rentrée il y a quelques années, donc ça veut dire qu'on a tous les acteurs, là, les Chinois, les Russes, les Américains, on pourrait demander s'il y avait une demande ou unitaire ou collective à l'OMC de trancher et de dire « oui ». On vous octroie une licence obligatoire sur tel ou tel produit pharmaceutique ou sur tel vaccin, et vous aurez le droit de produire ce vaccin en versant évidemment de l'argent quand même au laboratoire en question, mais il n'y aura pas de protection du brevet pendant 20 ou 25 ans. Ça, l'OMC peut le décider.
Ouais.
Et ça, ce serait génial, parce qu'on n'aurait plus de goulot d'étranglement de production. On n'aurait plus de questions de doses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
L'objection d'Elisabeth.
L'objection, c'est que je ne crois pas que l'OMC va le décider, pour la simple raison qu'on voit bien
déjà
que les vaccins...
Oui,
mais à mon avis, ça ne va pas se faire. Comme vous le savez, l'OMC est aussi traversée par les rapports de force. Or, on voit bien, si vous voulez, d'ailleurs, c'était aussi, je l'ai écouté votre chronique tout à l'heure, cher Eric, on voit bien que le vaccin est un élément aussi de puissance dans le jeu géopolitique.
Évidemment.
Donc, si vous voulez, cette idée que, au nom de l'intérêt général commun, on va faire du vaccin bien commun. Je ne dis pas d'ailleurs que ce serait pas magnifique, mais je ne crois pas du tout que ça va arriver, parce que il me semble que les rivalités d'intérêts n'ont pas disparu avec le Covid.
Très bien, mais vous avez sans doute noté qu'après l'exemple de Sanofi, qui va donc produire dans son unité allemande du Pfizer, il y a un autre laboratoire de renom qui a décidé de le faire aussi, c'est Novartis. Ça veut dire que c'est pas complètement, pardonnez-moi, déconnant d'imaginer voyez que les laboratoires, alors vous n'allez pas aimer l'image, Elisabeth, se donnent la main pour produire un bien commun qui est le vaccin.
Et moi, mais je n'y crois pas.
Non, mais vous allez.
Je l'aime. Pas,
mais tant qu'on n'a pas demandé à l'Organisation mondiale du commerce cette possibilité-là, alors vous avez raison. Ou vous avez raison. C'est, et moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est que Poutine, on pense qu'on veut de Poutine,
ouais.
Et de Navalny, mais enfin, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer.
Alors oui, non, mais justement, venons-en, on en parle deux minutes, là, ouais, on en parle
Poutine
deux minutes.
Poutine va apparaître comme le sauveur du monde, et comme je le disais à la fin de la chronique, l'image de la Russie va sortir grandie ouais. de cette pandémie avec son...
Si ça marche, hein, si ça marche, ouais.
Si ça, bah, attendez, 92% du The Lancet, alors bon, pour l'instant ça marche. Mmh. D'ailleurs, dès hier soir, Angela Merkel a dit, dès l'instant où les vaccins, on prouve qu'ils sont efficaces, oui, bah, bien sûr que l'Allemagne les utilisera.
Ouais,
donc,
ouais.
Ça veut dire que l'Allemagne est sur le point.
Alors, d'un mot, d'ailleurs...
Il n'y a pas eu un scandale Lancet récemment ?
Si, bien sûr.
C'était
se méfier, quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et un mot sur le Valneva.
Oui, mais il n'y a aucune raison que le Lancet fasse des cadeaux à la Russie.
Oui, oui. Bon, sur l'affaire Navalny, quand même, c'est vrai que là, on est en train de discuter avec les Russes, et dans le même temps, les Russes, ils font pas de quartier. Si je puis dire, avec les opposants. Alors Navalny, je ne sais pas si bien fondé ou pas de sa condamnation, il a été condamné quand même à 3 ans et demi.
3 ans, parce 3 ans et demi de prison.
Et puis une vague d'arrestations quand même des opposants.
Non mais ce qui est génial, juste Patrick, après j'arrête de parler, c'est qu'hier on a les deux trucs en même temps.
Ouais,
on
a
Navalny condamné à 3 ans et demi de prison, les chancelleries allemandes, françaises, c'est un scandale, libérez-le. Ouais. Et puis dans le même temps, il y a Merkel et Macron qui disent le Sputnik V, oui, pourquoi pas, ça nous intéresse.
Non, mais c'est vrai.
Il y a le gaz russe, l'Allemagne qui est en train, si vous voulez, qui est sous pression pour cette affaire de... Oh, je retrouve pas le nom.
Bah oui.
Si vous voulez, je crains que le sort des opposants russes, là encore, si vous voulez, ce serait peut-être merveilleux, mais je crains que le sort des opposants russes pèse peu par rapport aux intérêts géostratégiques.
Alexis Poulain, d'un mot.
Oui, bah oui, tout à fait. C'est la réelle politique. Chaque État va avoir une approche différente vis-à-vis des opposants et de l'opposition. Mais on a vu aussi l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, l'ONU, critiquer la gestion française des manifestations des Gilets jaunes. On a vu l'Inde.
C'est vrai que sauf que pour les Gilets jaunes, quand même, ils ont manifesté, même s'il y a eu de la répression. Je suis d'accord. Ça a été violent par moments. Là, en Russie, vous sortez dans la rue, boum, vous êtes immédiatement...
1200, c'était le 18 novembre 2018, vous aviez 1900 personnes qui ont été arrêtées de manière totalement injustifiée lors des manifestations des Gilets jaunes, préventivement. Cette dérive illibérale a touché toute l'Europe, elle touche le monde entier. Regardez l'Inde, aujourd'hui, New Delhi se barricade parce que les paysans manifestent. Vous avez maintenant des task forces qui se mettent en place contre la désinformation. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, on est dans un moment de contraction autoritariste et illibérale de toutes les démocraties. Ouais. Donc, c'est très difficile après aux démocraties de faire la leçon en disant mais attendez, ce que vous faites que derrière, quand est-ce que vous le libérez Pourquoi est-il en prison, ce Julian Assange, qui est d'ailleurs il n'est pas américain, il est australien. Et les États-Unis décident de le mettre en prison parce qu'il a dévoilé des secrets d'État. Donc, vous voyez, à un moment, je crois que, mettons les choses sur la table, la réelle politique, elle est réelle, mais il y a une contraction libérale mondiale.
Vous pouvez pas comparer... D'abord, ce que dit la Commission des droits de l'homme de l'ONU et ses comités théodules de l'ONU, qui comportent dans leur sein des pays tout aussi démocratiques que le Soudan, la Syrie, etc.
On s'en fout de ce qu'ils disent.
Ces comités théodules n'ont aucune légitimité pour nous donner des leçons. Et puis votre comparaison, si vous voulez, entre les problèmes de maintien de l'ordre chez nous et la répression de l'opposition en Russie me sidère parce que, à vous entendre, les États n'ont jamais le droit de se protéger, en vrai. Eh bien, excusez-moi, je trouve votre comparaison,
mais
je trouve votre comparaison, non, excusez-moi, on peut pas dire que l'État français soit particulièrement fort par rapport aux manifestants de tout poil, on peut dire qu'il y a eu des erreurs de maintien de l'ordre, mais je ne crois pas qu'en France, les oppositions soient muselées. Vraiment, votre comparaison, je la trouve outrageante, cher Alexis.
Bon, ben voilà, ah non, on terminera sur ce sujet, mais c'était, je sentais que c'était un bon débat, ça aussi. Hein.
Oui, vous voyez,
il y avait des choses à dire. Merci.
Moi, Eric Revel m'a lâché en race campagne, j'adore les plus de soutien.
Oui, absolument. Ouais. Merci.
Il est pour la paix des ménages.
Si Patrick me le permet.
Oui, ah ben, on va dépasser. Bon, allez-y.
En tant que journaliste, en tant que journaliste ou en tant qu'opposant politique, si je l'étais, je préfère quand même nettement vivre en France qu'en Russie, mon cher Alexis.
Ah ben, j'ai pas dit le contraire.
Ah, bon. Quand même.
Et mais après, voilà, parlons aussi de l'Arabie Saoudite. Enfin, la liste est longue.
Voilà.
Mon point était que la liste est longue, malheureusement.
Merci, en tout cas, Eric Revel, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. C'était un bon débat, évidemment. Mmh. Comme à chaque fois, bien sûr. Et puis, on
se
respecte dans les.
De ne pas les mettre d'accord.
Oui. Non, mais parfois, il y a des points d'accord quand même qui interviennent. On a du retard, on a beaucoup de retard, mais c'est pas trop grave, puisqu'on est ensemble tranquillement jusqu'à 10h, bien sûr.
Et dans un instant, on va revenir justement sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit que tous les adultes volontaires seront vaccinés d'ici la fin de l'été. Eh bien, écoutez, on en parlera avec le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France dans un instant.
Et le dictionnaire absurde du Covid. Ouais. Ah ben, restez là, à 9h15. Là, on va se marrer aussi.
Là, on va
secondes.
Rigoler, je vous assure. Revenez dans un instant. Dans un instant, on fait un point sur l'actu avec Arthur Delaborde. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, hein. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On continue le petit déjeuner de l'actu et vous l'avez entendu peut-être hier soir, hein. Emmanuel Macron a annoncé que tous les adultes volontaires seront vaccinés d'ici la fin de l'été. Pour en parler ce matin, Philippe Besset avec nous, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Oui, bonjour Philippe Besset, merci d'être avec nous. Alors, il y a d'abord ce point sur AstraZeneca. Il y a le feu vert, et il est plus facile à conserver que les deux autres hein, précédemment. Il n'y a pas besoin d'avoir des super congélateurs. Vous allez pouvoir le distribuer. Comment ça va se passer alors ?
Alors, effectivement, c'est un vaccin classique, hein, le vaccin AstraZeneca, le vaccin adénovirus tout à fait classique. Et donc, il peut, comme tous les autres produits que nous avons dans des réfrigérateurs médicaux, être dans le circuit officinal. Mmh. Donc, ça veut dire que les grossistes répartiteurs vont l'apporter aux pharmacies d'officine et qu'il va pouvoir donc être présent dans tous les villages de France, dans tous les quartiers de France, au plus près du terrain. Disponible pour la vaccination de proximité par les médecins et les infirmières, mais aussi en officine par les pharmaciens. Et c'est ça la nouveauté de la décision de la Haute Autorité de Santé.
Oui. Bon, il y a un petit truc quand même qui m'échappe, hein, Philippe Besset. C'est que on l'a vu pour la distribution des doses vaccinales des deux autres vaccins hein, jusqu'à présent. Ça a été quand même un petit peu la galère, hein, de l'acheminement, pas de doses, etc. Ça manquait des gens qui viennent s'inscrire. C'est encore le cas. Il y a des gens qui depuis un mois essaient de trouver des rendez-vous pour aller se faire vacciner et qui n'y arrivent pas. Là, comment vous allez pouvoir vous les distribuer? À partir du moment où ils seront là, hein, parce qu'on vous donne des dates d'ailleurs ou pas, et qui pourra venir les chercher vraiment ?
Alors, c'est effectivement le seul problème que nous avons, c'est le nombre de doses et nombre de vaccins. Donc, on nous annonce 700 000 doses de vaccins AstraZeneca pour la troisième semaine de février en officine. Ce sont des flacons de 10 doses, on les aura à l'unité, et ces flacons, nous les aurons donc pour les distribuer aux médecins, comme je vous dis, aux infirmières, et pour vacciner nous-mêmes à nos officines. Ouais. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les gens qui viennent chercher des vaccins comme c'est le cas pour le vaccin grippe ou pour des vaccins contre le tétanos, par exemple. C'est bien les professionnels de santé qui sont chargés de vacciner eux-mêmes et donc d'avoir les doses. Donc notre seul problème, c'est effectivement d'avoir une quantité de doses suffisante pour approvisionner. Mais vous savez, on est habitué aux ruptures. Hein. On a des ruptures d'aspirine, on a des ruptures de tout. Donc,
c'est pas la même chose, quoi. Pardon, mais l'aspirine, vous êtes livré quelques jours après, ça revient où il y a d'autres médicaments pour se substituer à ça. Non, c'est quand même autre chose, quoi, hein, Philippe Besset, non ?
Alors, entendons-nous. Les ruptures de médicaments pour des pathologies courantes et pour des pathologies chroniques, c'est très grave parce qu'il n'y a pas d'autres médicaments pour remplacer. Mais pour revenir au vaccin qui est notre sujet, moi j'ai entendu ce que veut le président de la République. Il veut vacciner 65 millions de Français avant l'été. Bon, je fais un calcul rapide, ça fait 130 millions de doses, puisqu'il y a il y a une revaccination à faire.
Ouais.
130 millions de doses, ça fait 20 millions de doses par mois.
Ouais.
Ben moi je vous dis quelque chose, c'est que 20 millions de doses par mois, les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, on peut les faire. Donc ce n'est pas un problème de... Et on peut les faire en proximité. Donc il n'y aura pas de problème pour avoir les professionnels de santé pour vacciner. Déjà, c'est une bonne nouvelle. En proximité. Il faut que les Français veuillent se faire vacciner. C'est le cas.
Ça avance en fait, à ce niveau-là.
Ça avance, les Français veulent se faire vacciner. Donc il faut nous fournir des doses, c'est la seule chose qui compte maintenant. On n'en aura quasiment pas au mois de février, on va dire 2 millions, sachant qu'il nous en faut 20 par mois, 20 millions par mois. Voilà. Au mois de mars, ce sera à peu près pareil. On va dire qu'on va commencer en avril. Donc si en avril, on a vraiment le nombre de doses qui nous est promis, eh bien, en 6 mois, on fera la vaccination, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, vous comptez avril plus 6 mois, on arrivera peut-être à fin septembre.
Oui,
ça finit fin septembre. Donc, c'est jouable.
Bon, donc, s'il y a les doses, vraiment, c'est jouable. Encore faut... Ça, c'est de la version optimiste, hein, dans la mesure où on serait livré, on aurait l'approvisionnement. Ce n'est pas fait encore, quoi, ça.
Moi, ce que je vous dis, là, je vous parle du mois d'avril. Je pense qu'il faut vraiment que les Français comprennent que le mois de février, on n'aura pas de doses, et que le mois de mars, très peu.
Donc ça
veut dire que ce qu'a dit le président de la République, c'est que ce n'est pas le vaccin qui va empêcher le confinement du mois de février, si confinement il doit y avoir. En revanche, et ça il ne l'a pas dit, c'est quand même la mesure d'espoir, c'est le vaccin qui va éliminer tous les confinements à venir.
C'est-à-dire
qu'en fait, à partir du moment où il y aura un vaccin, il n'y aura plus de confinement, c'est fini.
Alors, à condition aussi qu'il soit efficace, parce que le AstraZeneca, par exemple, on dit que il a un taux d'efficacité relatif, 60% pour les plus de 65 ans, quoi.
Alors, ça, on verra en vie réelle ce que ça donne. Il a 62% d'efficacité sur la population, sur les quelques dizaines de milliers de personnes qui ont participé à l'essai. Et ça, il faut voir qu'est-ce que ça donne dans le temps. Il faudra qu'est-ce que ça donne avec la revaccination qui se fait des semaines plus tard. Donc tout ça nécessite d'être vu. Bon, voilà, vous avez vu d'autres vaccins qui arrivent avec des taux d'efficacité annoncés de 90%.
Le russe, là, vous avez confiance pour qu'il vienne sur le marché, le Sputnik V?
Moi, j'ai confiance dans tous les vaccins qui seront labellisés par les agences de santé européennes.
Ouais, c'est ça.
Donc là, on a vu l'étude qui est parue dans The Lancet hier est très optimiste et donc donne de l'espoir sur un vaccin supplémentaire. On a le Janssen qui va arriver, on a l'origine du vaccin géopolitique, moi, m'importe peu.
Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas qu'il y ait aussi encore de variations du variant, si je puis dire, parce que c'est ce qui est en train de se passer en Angleterre. Bon, il faut surveiller ça, il ne faut pas non plus paniquer.
C'est assez simple à partir du moment où on a une souche, pour les vaccins adénovirus, je parle, type de celui d'AstraZeneca ou le russe ou celui de Janssen, c'est les vaccins adénovirus, donc pas ceux à ARN messager, donc ceux qui arrivent actuellement, c'est assez simple de les adapter. C'est ce qu'on fait annuellement sur la grippe. Chaque année, le vaccin grippe est différent de celui de l'année précédente pour justement être à jour des mutations. Il va falloir se dire quand même qu'on va se faire vacciner tous les ans.
Je ne
sais pas si tout le monde a bien compris, mais c'est une vaccination annuelle qu'on va avoir contre cette maladie.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Philippe Besset. Il faut le faire d'ailleurs, le vaccin contre la grippe, là, ou maintenant c'est trop tard, parce que je sais que c'est arrivé.
Jusqu'au mois de février, jusqu'au 28 février, nous avons encore des doses en officine, donc vous pouvez, s'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, il faut simplement respecter 14 jours entre la vaccination Covid et la vaccination grippe. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vaccinations de vaccins Covid actuellement, j'incite tout le monde à terminer à se faire vacciner contre la grippe.
Oui, parce qu'elle n'est pas là pour l'instant, la grippe, quand même. Si.
Écoutez, ça c'est vraiment la bonne nouvelle des gestes barrières. Non seulement la grippe n'est pas là, mais ni la gastro-entérite, ni aucun des maux de l'hiver.
Oui, la gastro, c'est non plus. Hein, parce qu'on m'a dit, ça commence à arriver. On commence à s'inquiéter.
Ce que je vous dis, c'est que le gel hydroalcoolique, la distanciation, les masques, ça fonctionne sur tous les virus.
Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Philippe Besset, d'avoir été avec nous. Je note quand même votre discours très optimiste. Il faut y croire. Vous avez raison, ça fait du bien. Et bon, après, nous verrons évidemment comment les choses évolueront. Dans un instant, puisqu'on est dans l'optimisme, et on en a besoin un petit peu.
Serge Simon sera avec nous pour ce livre Dictionnaire absurde du Covid aux éditions Hugo Doc. Vous allez voir qu'il a répertorié ce nouveau langage, hein, la novlangue du Covid. Tout ce qu'on dit depuis un an et demi qu'on ne disait pratiquement pas avant ou qu'on ne connaissait pas en tout cas. Et il les détourne, il donne des synonymes, il donne des exemples et vous allez voir que c'est très très drôle.
C'est le vice-président de la Fédération française de rugby. Hein. Oui, Serge Simon, c'est un ancien pilier, je vous raconte pas. Hein.
Et médecin.
Oh, attention, et médecin en plus de
il
ça.
Il nous fera peut-être une consultation.
Oui, oui, non mais c'est très drôle. Moi je me suis bien marré en le lisant hier soir. Ça fait du bien.
Allez. On revient dans un instant avec lui, il est 9h15.